Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. L'exécutif reste ferme sur la loi travail, mais il est désormais confronté à un délicat travail de déminage des résistances. Il y a le front syndical d'un côté, les réticences de la majorité de l'autre. L'analyse de Frédéric Mettezo est à suivre dans un instant. Avant de se plonger dans une nouvelle semaine sociale, François Hollande aura le regard tourné vers l'histoire aujourd'hui à Verdun. Commémoration du centenaire de la terrible bataille de la Grande Guerre, nous entendrons le chef de l'État au début de ce journal. À Béziers, entre 2000 et 3000 personnes ont manifesté hier contre la rencontre de la droite hors les murs du maire Robert Ménard, journée qui a donné lieu à une passe d'armes avec le Front National. Enfin, au Brésil, pas question de reporter les Jeux Olympiques, comme le demandent aux autorités 200 experts de la santé à cause du virus Zika. Nous serons avec notre correspondante Claire Lenestour. Une journée forte de symboles dans une Europe actuellement en crise. La France et l'Allemagne commémorent ce dimanche le centenaire de la terrible bataille de Verdun. Dans une heure et demie, François Hollande et la chancelière Merkel marcheront dans les pas de François Mitterrand et d'Helmut Kohl. Les deux anciens chefs d'État s'étaient pris la main en 1984 devant l'ossuaire de Douaumont en écoutant la Marseillaise, image devenue l'emblème de la réconciliation et de l'amitié franco-allemande. Invité de la Fabrique de l'Histoire mardi dernier sur France Culture, François Hollande est revenu sur cette émouvante page d'histoire.
1984, c'est une rencontre inédite qui se produit. C'est la première fois qu'un chancelier d'Allemagne vient à Verdun. Le geste de Mitterrand avec Helmut Kohl, les mains qui se cherchent et qui se trouvent, c'est le symbole de la réconciliation. Ce que nous avons à faire avec la chancelière, ce n'est pas une réconciliation, elle est faite. C'est de faire que nous soyons dans la relance de l'idéal européen pour que cette amitié franco-allemande, parce que là on n'est plus dans la réconciliation, cette amitié franco-allemande soit utile à l'Europe et au monde.
Donc c'est la teneur de ce que vous allez faire.
Je pense
dimanche.
Que ce qui est attendu de nous, c'est de parler.
Donner la puissance des mots.
Et de dire ensemble ce que nous voulons faire dans ce moment précis pour l'Europe, atteinte par le mal du populisme. On voit aussi une Europe qui a eu énormément de difficultés à affronter la question des réfugiés. On voit une Europe qui ne sait pas exactement comment elle doit se situer par rapport à sa protection et à sa défense et à sa sécurité. Je pense au terrorisme. Eh bien, c'est cette Europe qui doit être protectrice pour les peuples.
François Hollande avec Emmanuel Laurentin, la Fabrique de l'Histoire avec le chef de l'État est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. François Hollande qui reste ferme sur la loi travail et l'article 2 concernant la hiérarchie des normes. Depuis le Japon vendredi, il a affirmé que le projet de loi El Khomri est une bonne réforme. Par ailleurs, hier à Matignon, le Premier ministre a reçu les acteurs des filières pétrole et transport pour faire le point sur la situation du carburant. Les déblocages continueront si cela s'avère nécessaire, a déclaré le ministre des Transports Alain Vidalis à l'issue de la réunion. Politiquement, l'exécutif doit maintenant gérer deux débats en simultané. Celui avec les syndicats, ne pas décevoir les réformateurs de la CFDT, convaincre Force Ouvrière qui veut une réécriture de l'article 2 et faire plier la CGT. Et puis, il faut désamorcer les résistances dans la majorité, Frédéric Mettezo.
Difficile de convaincre les frondeurs qui ont signé une lettre commune avec des écolos et des communistes. Restent les députés aubristes qui ne veulent pas non plus du 49-3 mais qui ne voteraient pas de motion de censure. Reste surtout cette majorité de députés PS restés loyaux à François Hollande mais qui veulent amender l'article 2. Des députés parfois désemparés. On a fait passer le message à l'exécutif, confie l'un d'eux, mais il n'est pas vraiment entendu. Je suis un grand garçon, je m'en fous, mais là, ils ont tort. Alors comment débloquer la situation? La présidente de la commission des affaires sociales propose qu'un projet d'accord d'entreprise soit d'abord soumis aux syndicats au niveau de la branche. C'est aussi l'idée d'un amendement du rapporteur Christophe Sirug, jamais débattu à cause du 49-3. C'est le seul espace politique, considère un député hollandais. Plus cynique, ce député valsiste, quand la loi réécrite par un Sénat de droite reviendra à l'Assemblée fin juin, on verra alors que la loi El Khomri est une loi de gauche. Fin de citation. À condition d'ici là de contenir le mouvement social en plein championnat d'Europe de football.
Emmanuel Macron fera la synthèse de son diagnostic sur la France d'ici la fin de l'été. Le ministre de l'économie, qui agace de plus en plus ses collègues du gouvernement, a lancé sa grande marche hier. Une opération de porte-à-porte pour recueillir les doléances des Français dont il veut faire le socle d'un plan d'action pour changer le pays en profondeur, ce sont ses termes. 12 000 bénévoles participent à cette démarche issue de son mouvement En Marche, lancé en avril dernier. Les rendez-vous de Béziers organisés par Robert Ménard vont-ils marquer la rupture du maire de l'Hérault avec le Front National? La députée du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, a claqué la porte hier. Elle reproche à Robert Ménard, qui vient de lancer le mouvement Ost à droite, de nier le caractère incontournable du Front National dans l'actuel système politique français. Journée également marquée hier par une manifestation de 2 à 3000 personnes. Et voici les arguments de Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, qui était présent hier à Béziers. Il dénonce le mouvement lancé par Robert Ménard.
C'est finalement donner un corpus organisationnel pour peut-être des volontés électorales personnelles de la part de ce personnage à une politique, à une ligne qui consiste à ouvrir le champ des possibles les plus douteux dans notre pays, que ce soit à travers le fait de réexhumer la question de l'Algérie française, que ce soit la stigmatisation répétée des personnes de culture ou de religion musulmane, que ce soit à travers une guerre contre les SDF et donc contre les personnes les plus fragilisées dans la société. Donc on est vraiment sur un personnage qui essaye de poser comme une forme d'évidence tranquille que la mythification d'un passé qui d'ailleurs n'a jamais existé pourrait faire une ligne politique. Mais oui, il y a sans doute beaucoup d'énergie potentielle qui sont révulsées, mais trop peu qui aujourd'hui se mobilisent, sans doute par manque de perspectives politiques offertes par les partis autres que le Front National, à savoir des partis qui font le jeu de la République.
Des propos recueillis par Christine Moncla. Ils sont désormais près de 200 scientifiques du monde entier à avoir signé la lettre ouverte adressée à l'Organisation mondiale de la santé, démarche destinée à reporter, annuler ou déplacer la tenue des Jeux olympiques de Rio cet été en raison du risque sanitaire lié au virus Zika. Hier, l'OMS a botté en touche, l'événement aura bel et bien lieu. Cela ne résout en rien le problème de fond et le différend entre l'OMS et les médecins concernés par la lettre, Claire Lenestour.
Quelques heures auront suffi pour que l'Organisation mondiale de la santé réponde aux experts. Non, les Jeux n'ont aucune raison d'être annulés. Une décision scientifiquement raisonnable et argumentée selon Tariq Jazarevic, porte-parole de l'OMS à Genève.
Même si 500 000 personnes ne voyagent pas à Rio, ça représente même pas 1% du nombre des gens qui voyagent dans les pays touchés de Zika. Donc il n'y a pas vraiment un risque additionnel. D'autant plus que le virus de Zika se transmet soit par les piqûres de moustiques et de manière moins fréquente par le rapport sexuel. Donc le fait d'être dans un environnement où il y a beaucoup de gens n'ajoute pas un risque individuel pour une infection.
Pour Amir Attaran, professeur à l'université d'Ottawa et co-auteur de la lettre, l'OMS fait fausse route. La souche du virus Zika a muté, dit-il, et elle est plus dangereuse au Brésil qu'ailleurs. Pour lui, le manque de réaction de l'OMS s'explique davantage par les liens qui l'unissent au Comité international olympique.
Le CIO collabore avec l'OMS depuis plus de 20 ans. On oublie que la tâche de l'OMS n'est pas de protéger l'investissement, c'est de protéger la santé. Nous sommes seulement 150, peut-être 200 professeurs. Nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. Nous avons seulement la vérité. Combattre l'influence, l'argent énorme des Jeux olympiques, c'est presque impossible, mais je suis très content d'essayer.
Pour ce faire, les médecins entendent diffuser leur lettre ouverte le plus largement possible, même s'ils ne se font plus beaucoup d'illusions sur la possibilité d'annuler les Jeux prévus à Rio du 5 au 21 août.
L'ONU veut se doter d'une force de réaction rapide de 15 000 casques bleus. Un minutieux processus de sélection est en cours depuis plusieurs mois pour choisir les pays et les unités qui pourraient y participer. Objectif pour les Nations Unies, qui célèbrent aujourd'hui la Journée internationale des casques bleus, s'assurer que les soldats de la paix soient correctement entraînés et équipés et qu'ils respectent bien les critères de discipline onusiens et de respect des droits de l'homme. En Iran, le conservateur modéré Ali Larijani a été largement réélu ce matin président du Parlement. Vote organisé à la suite d'élections législatives qui ont permis un rééquilibrage des forces entre conservateurs et réformateurs alliés aux modérés du président Hassan Rouhani, sans aller jusqu'à apporter aux réformateurs la présidence du Parlement. Météo France lance une nouvelle alerte orange aux orages pour 7 départements de l'ouest de la France. Vigilance qui concerne l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne. Elle court de midi jusqu'à demain midi 13h. Hier après-midi à Paris, 11 personnes, dont 8 enfants, ont été blessées par la foudre, dont un grièvement. Les températures, par ailleurs, elles sont en baisse. Les minimales vont de 10 à 15. Les maximales afficheront de 17 à 20 et grimperont jusqu'à 24 degrés dans le sud-est et en Corse.